ont le privilège de passer encore une heure sous le regard de notre Père des cieux et autour de la personne de son Fils bien-aimé, notre Sauveur, notre Seigneur, et celui qui veut être vraiment le bien-aimé de nos cœurs, l'objet de nos affections. Oui, c'est une grâce, en ce 16 février 1985, de pouvoir terminer une semaine dans la présence du Seigneur et occupé de sa parole. Nous voulons lui demander qu'il ouvre nos yeux pour que, une fois de plus, nous puissions discerner les merveilles de sa loi. Ô Dieu, oui, comme le psalmiste, nous te demandons en effet d'ouvrir nos yeux. Tu l'as fait autrefois pour les disciples que tu rencontrais à Jérusalem alors que tu étais leur ressuscité. Tu leur as ouvert les yeux pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Mais tu leur as ouvert aussi l'intelligence et nous te demandons que tu nous ouvres l'intelligence et que tu nous donnes aussi une volonté et qui te soit entièrement soumise et que ce soit dans la joie que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous auras enseigné. Rends nos pensées captives à l'obéissance du Christ. Enlève de nous toute distraction et que tu nous donnes des lèvres purifiées, un cœur pur, pour pouvoir parler en présentant les oracles de Dieu et que nous puissions servir non pas dans notre propre force mais par la force que toi tu fournis. Car ô Dieu, nous sommes sans force. Mais nous regardons vers toi et nous cherchons ton regard pour écouter ta parole qui nous dit « Va avec cette force que tu as. » Ton Dieu a commandé ta force. Qu'il en soit ainsi non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui sont rassemblés ici et qui ont besoin aussi de ce renouvellement de grâce selon ton âme en Jésus. Amen. Eh bien, voyez-vous, mes amis, en entendant ces témoignages, je me disais, Dieu nous donne vraiment comme un avant-goût du ciel, de cette éternité où nous serons dans la présence du Seigneur et où les vies de chaque racheté passeront devant ces multitudes et où chacun pourra témoigner, non plus avec notre pauvre langage, mais avec des mots qui seront des mots divins, tout ce que nous aurons éprouvé du Seigneur et tout ce que nous pourrons dire sera vraiment à la gloire de Dieu et c'est un véritable Alléluia. Et qui sera. Tu n'y es pas encore? Je croyais que je l'avais dit. C'est un véritable Alléluia qui retentira dans le ciel. Quand nous connaîtrons nous-mêmes comme nous avons été connus, eh bien oui, il y aura des actions de grâce sur nos lèvres. Et je crois que l'éternité ne sera pas trop longue, comme on l'a dit quelquefois, pour entendre les merveilles de la grâce de Dieu dans chaque vie, la surabondante grâce de Dieu dans chacune de nos vies. Nous serons vraiment émerveillés. Bien, nous continuons maintenant la vie dans l'Église et nous arrivons à cette deuxième persévérance qui se trouve dans ce chapitre 2 du livre des Actes, au verset 42e, ils persévéraient dans la communion fraternelle, et nous passerons directement à la quatrième persévérance, puisque nous réservons la troisième pour demain matin, il persévérait dans les prières, dans la communion fraternelle donc, et dans les prières. Après l'enseignement des apôtres, qui nous a occupés cet après-midi, enseignement qui n'était pas un enseignement occasionnel, comme nous l'avons souligné, donné par n'importe quel frère en Christ, mais une instruction vraiment systématique apportée par quelqu'un qui était spécialement qualifié pour ce ministère. Et bien, après cet enseignement des apôtres, nous avons donc cette deuxième persévérance, la communion fraternelle. Et nous vous avons déjà dit ce que signifie le mot persévérer. C'est en quelque sorte demeurer, c'est continuer, c'est ne pas se lasser, ne pas abandonner, c'est vraiment poursuivre, c'est aller jusqu'au but. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, disait Jésus, sera sauvé. Et nous pourrions prendre plusieurs autres textes qui nous parlent de la persévérance. Je viens de citer Matthieu 10, verset 22, comme aussi Matthieu 24, verset 13. Alors, nous sommes bien au clair sur ce qu'est la persévérance. Mais que veut dire persévérer dans la communion? Quel est le sens de ce mot communion? Bien, c'est facile à s'en rendre compte sans même avoir besoin du dictionnaire. C'est l'union de ceux qui professent la même foi. La communion, c'est un accord, une communication, disons, une correspondance, une union, partage. Pour être en communion, il faut donc être d'accord. Puis on a vu qu'il est parlé de communion fraternelle. C'est pas n'importe quelle communion, hein. C'est pas n'importe quelle union. C'est une communion fraternelle. Alors on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est vraiment la fraternité? La fraternité, c'est une parenté entre frères et sœurs, et si vous consultez le dictionnaire, vous trouverez que c'est le lien qui existe entre les hommes considérés comme membres de la famille humaine. Et cette fraternité, ce qui la caractérise, ou ce qui devrait la caractériser, c'est l'affection, c'est l'amitié, c'est la cordialité. Mais pour qu'il y ait vraiment fraternité, pour que ce soit vrai cette fraternité, que ce ne soit pas simplement quelque chose de sentimental, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit réellement frère et sœur? Il faut qu'il y ait paternité. Et c'est cela qui est très important. Si on veut parler de communion fraternelle, il faut d'abord songer à cette paternité pour que je sois vraiment votre frère et votre sœur, que ce soit pas quelque chose de fabriqué. Il faut que vous et moi, nous ayons le même père. Il faut que nous ayons le même père. Vous savez, il y a une devise que nous aimons beaucoup en France, c'est la devise française, et je crois qu'à peu près toutes les nations pourraient la prendre et dire qu'ils sont d'accord. Liberté, égalité, fraternité. Mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde, eh bien, on serait porté à dire, comme ce Français qui lisait cette devise sur une pièce de monnaie française qui avait été gravée par le sculpteur Oudinot. Il avait mis un point après liberté, égalité, fraternité. Alors il disait liberté, point, égalité, point, fraternité, point. Il était mis Oudinot, alors c'était le nom du graveur, Oudinot à Paris, il y avait des étoiles à la belle étoile. Hein. Voilà comment on lisait en France, un peu avec humour, la belle devise française gravée sur une pièce de monnaie. Oui, tout le monde est d'accord, et puis sur tous les édifices publics, vous avez cette devise liberté, égalité, fraternité. Mais quand vous y regardez de près, ben de la liberté, il n'y en a point. De l'égalité, où la trouvez-vous? Il n'y en a point. Et puis la fraternité, eh bien, il y a peut-être des camarades, la République des camarades, mais les camarades, ce n'est pas des frères. Hein. On est camarades, mais on n'est pas frères. Et pour quelle raison? Bien, parce qu'on ne connaît pas le Seigneur Jésus. Parce que en dehors de Jésus, il n'y a point de liberté. C'est Jésus qui a dit dans le chapitre 8 de Jean, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Vous serez réellement libre. Il faut connaître Jésus-Christ pour être libre. Mais on se croit libre, hein, mais en réalité, on n'est pas libre. On est un esclave, même esclave de sa petite cigarette qui devient notre maîtresse. Elle nous possède. Hein. Je dis non, 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 je ne veux pas. Si la petite cigarette dit, mais tu vois comme je suis jolie. Hein, prends-moi, goûte-moi. Puis voilà que je cède. Je suis possédé par un petit peu de papier et puis un petit peu de tabac dedans. Alors, qui est le maître? Est-ce que c'est la maîtresse ou bien c'est moi? Alors, que le Seigneur nous montre que nous avons besoin vraiment de Jésus-Christ et que Jésus-Christ peut nous libérer. Je ne dis pas ça parce que je suis un moraliste. Si vous voulez fumer, fumez. Continuez et faites des bonds vers l'éternité. Parce que aller au pas, c'est pas assez vite. Alors, courez, sautez vers l'éternité. Ayez plus vite le cancer qui va vous emporter. N'est-ce pas? L'autre jour, c'était à Parc-Saint-Tron. J'ai dit quelques mots parce qu'alors vraiment, j'en jouis beaucoup ici parce que vous ne fumez pas dans la salle. Mais là, plusieurs se permettaient de fumer dans la salle. C'est pas moi qui avais la direction du groupe, mais enfin, on tolérait cela. Et vous savez que beaucoup de personnes en souffrent. Alors, comme il y avait beaucoup de jeunes, je me suis permis de dire quelques mots et que toutes les économies qu'ils pourraient faire, les voyages qu'ils pourraient peut-être se payer, parce qu'au lieu de mettre ça sur de la fumée, ils mettraient leur argent dans une petite cagnotte, et puis tout à coup, ils s'apercevraient qu'ils ont un petit capital qui leur permet de faire peut-être un voyage ou de prendre des vacances ou de s'acheter un bon livre, que sais-je encore. Eh bien, il y avait des jeunes filles qui m'attendaient à la sortie, puis qui m'ont dit, « Vous savez, M. Racine, on vous remercie pour votre sympathie pour nous, hein, mais nous, on continuera de fumer, parce que on veut mourir jeune. » Menteuse. Mais ça ne m'impressionne pas beaucoup des trucs comme ça. On veut mourir jeune avec un visage rayonnant. On veut mourir jeune. Hein? Puis dès qu'elles auront un petit symptôme, elles courront chez le médecin. Elles feront tout au monde pour essayer d'être guéries. Et là, quelquefois, c'est trop tard. Et je le vois sur le visage de ma femme qui est médecin quand elle rentre de l'hôpital et qu'elle a dû dire à une jeune fille qu'elle a le cancer du poumon ou à un jeune homme, eh bien, je le vois sur son visage. Vous croyez que c'est gai de devoir dire cela? Vous n'en avez plus pour longtemps. Alors évidemment, vous pouvez leur mentir, mais ma femme ne leur ment pas. Mais on voudrait éviter ces choses. Mais évidemment, c'est comme Élie dit, si l'Éternel est Dieu, suivez-le, puis éprouver quelque chose de sa puissance, il peut encore. Puis si c'est Baal, eh bien courez après lui, puis vous prêterez mes jambes encore pour que vous allez plus vite. Hein? Si c'est Baal, bien courez après lui. Moi, je ne peux pas vous forcer, je ne peux pas vous contraindre, mais j'ai à vous dire la vérité, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Et si nous vous la disons, croyez que nous vous la disons avec amour, parce que nous vous aimons, parce que nous nous rendons compte des conséquences, de nos inconséquences. Il y a des choses, n'est-ce pas? Oui, le Seigneur pardonne, mais il y a des choses qui ne se guérissent pas, mes bien-aimés. Et il n'est pas nécessaire de mourir n'importe comment. De mourir en s'étant détruit soi-même. Oh, je sais, c'est la grâce, le Seigneur me sauve quand même. Mais enfin, vous pourriez avoir une mort différente, une mort à la gloire de Dieu, parce que moi je crois que notre mort doit aussi glorifier le Seigneur, comme notre vie. L'apôtre Pierre a su qu'il glorifierait Dieu dans sa mort. Le Seigneur l'a averti de quelle manière, quand il serait devenu vieux, il glorifierait le Seigneur dans sa mort. Il le savait. Et je crois aussi que vous pouvez glorifier le Seigneur dans votre mort. Eh bien, que le Seigneur continue à nous parler et que cette parole ait vraiment de l'autorité sur notre cœur. Nous sommes donc dans cette deuxième persévérance. Il persévérait dans la communion fraternelle. Mais nous disions que pour qu'il y ait fraternité, il faut qu'il y ait paternité. Et puis, nous vous parlions aussi de cette fameuse devise française, et nous en étions là au mot liberté. Liberté. La liberté, elle vous est donnée par qui? Par Jésus-Christ. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais, évidemment, si on ne veut pas du Fils, on est esclave. Les gens se croient libres, et pourtant ils sont esclaves. Quand on dit, mais je ne peux pas faire autrement, vous n'êtes pas libre. Vous pouvez faire autrement. Si vous laissez Jésus en vous, c'est lui qui agira. Alors voilà. Pourquoi il n'y a pas de liberté en France? C'est parce qu'on ne connaît pas encore réellement Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ est dans un cœur, il nous apporte la liberté. Et qu'est-ce que c'est la liberté? C'est de pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est quelque chose de magnifique. La liberté, c'est pas faire ce que l'on veut, mais c'est de pouvoir dire enfin, Seigneur, tu peux faire de moi ce que tu veux. Je suis libre, je suis disponible. Parce que nous verrons que la disponibilité, c'est un élément de la communion fraternelle. Je suis disponible, je suis libre maintenant, tu peux faire de moi ce que tu voudras. Parce que servir le Seigneur, c'est pas faire des choses pour le Seigneur, je le répète souvent, c'est se laisser faire par le Seigneur. C'est ça le service. Qu'il me soit fait, nous dit Marie, selon sa parole, c'est se laisser faire. Vous serez dans la main du Seigneur et c'est lui qui agira, donc vous n'aurez pas à vous fatiguer. C'est lui qui sera votre force. Puis l'égalité, hein, puisque je suis parti sur ce chemin-là, eh bien on ira jusqu'au bout de ce chemin. Eh bien, l'égalité, en France aussi, on constate qu'il n'y en a point. Pour quelle raison? Parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. Vous avez déjà pensé ce qui s'est passé à Noël, ou enfin à la naissance du Seigneur? Ce sont les pauvres qui sont venus pour adorer le Seigneur. Et comme l'avait dit Anne, la mère de Samuel, dont j'ai raconté quelques mots de son enfant aux enfants tout à l'heure, eh bien, elle peut dire, il prend les pauvres de dessus le fumier et il élève les humbles. C'est le Seigneur qui prend les pauvres et qui les élève jusqu'à lui. Et puis, qu'est-ce qu'il fait au sujet des grandes semences des riches? Il les prend aussi parce que Dieu aime aussi les riches. Il ne dépossède pas les riches. Il élève les pauvres jusqu'à lui, et les riches, il les abaisse jusqu'à lui. Les mages venus d'Orient, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont trouvé Marie et le petit enfant, ou le petit enfant et Marie, Eh bien, ils se sont agenouillés devant le Seigneur. Alors, les pauvres étaient élevés jusqu'au Seigneur, les riches abaissés jusqu'au Seigneur. Alors, riches et pauvres se trouvaient sur un plan d'égalité. Et les riches pouvaient offrir au Seigneur leur trésor, et c'est quelque chose de merveilleux. Le Seigneur ne dépossède pas les riches, mais il en fait les administrateurs de leurs biens. Et ils peuvent servir ainsi, avec leur argent, les œuvres du Seigneur. Voilà ce que fait le Seigneur. Il ne dépossède pas. Vous savez, la doctrine communiste, on nous dit que Jésus était un grand communiste, j'ai encore entendu avant-hier, c'était un grand révolutionnaire. Et puis, on voudrait, soi-disant, que nous fassions exactement ce que lui a enseigné, mais on ne connaît pas même son enseignement. Parce que le communiste, au fond, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dira, ce qui est à toi est à moi. Tandis que le vrai chrétien, il dit, ce qui est à moi est à toi. Il n'y a pas l'esprit de revendication quand on est disciple du Seigneur. Il n'y a pas cet esprit de revendication. Il y a l'esprit du don. Parce que le Seigneur, il sait donné. Étant riche, il a vécu dans la pauvreté afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Voilà l'exemple qu'il nous a donné. Donc Jésus, quand il fait l'égalité, eh bien, il ne dépossède pas le riche, mais il le fait administrateur de ses biens, et le riche sait qu'il a lui-même à rendre compte de tout ce qui lui est donné, il devra rendre compte à son maître. Mais il ne laisse pas le pauvre dans sa pauvreté, il l'amène aussi aux pieds du Seigneur. Alors, riches et pauvres peuvent se regarder, ils ont été aimés d'un même amour. Voilà la vraie égalité. Et alors, la fraternité qui va donner la fraternité, eh bien, c'est Jésus aussi qui nous l'a fait connaître. Jésus nous fait connaître qui? Le Père. En dehors de Jésus, il n'existe pas de connaissance réelle de Dieu. Il n'existe pas de connaissance complète de Dieu. Oui, il y a une connaissance de la divinité dans les autres religions, mais c'est en Jésus et en Jésus seul que nous pouvons apprendre à connaître Dieu comme quoi? Comme un Père. Et pour que ce Père de notre Seigneur Jésus-Christ devienne notre Père, que faut-il? À tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, quand j'accepte Jésus-Christ, quand je reçois Jésus-Christ, je deviens l'enfant de Dieu. Vous voyez que même, on m'a appelé une fois, c'était le 14 juillet, je me trouvais en France, dans un village de Bretagne, dans une ville de Bretagne, la Morlaix. Et puis, on me dit, bien, les autorités militaires vont faire une célébration, et puisque vous êtes là pour des conférences, ils voudraient que vous apportiez le discours patriotique. Moi, faire un discours patriotique, je suis suisse, je suis pas même français. Oui, je suis français d'origine, de la révocation de l'édit de mort, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y aura les drapeaux, il y aura la fanfare, il y aura l'armée, etc. Est-ce que je vais faire un discours patriotique? Puis tout à coup, le Seigneur me dit, je t'ai appelé là pour que tu sois témoin, oui, tu iras faire ce discours. Mais quoi? Tout d'un coup, j'ai eu cette illumination, mais je m'en vais partir de la devise des Français, liberté, pour leur dire, il n'y en a point, égalité, il n'y en a point, fraternité, il n'y en a point, mais comment est-ce qu'il pourrait y en avoir un? Jésus, hein? Alors, le vrai Jésus. Et alors, on peut parler, et vous savez, ces gens, ils écoutent, hein? Puis le maire le premier, et puis les officiers aussi. Il ne faut jamais avoir peur. C'est pour ça que je vous disais, nous ne connaissons personne selon la chair, peu importe l'auditoire. Vous avez dit, mais alors vous étiez politique, vous faisiez de la politique? Non, je n'ai pas de la politique, on m'avait demandé de parler à ces gens. Mais qu'aurait fait Jésus? Que faisaient les apôtres? Quand on a demandé à Paul de parler à l'aéropage, il a dit, oh non, non, moi je ne fréquente pas ce milieu-là, hein. C'est sage, cette sagesse, je la connais assez, et puis je n'ai rien à voir à faire avec eux. Il avait un cœur qui brûlait. Et il est allé leur apporter le message. Et si Pierre n'était pas allé chez Corneille, Corneille, vous rendez-vous compte, qu'est-ce qu'il était? C'était un militaire. Il était centurion. Et puis mieux que ça, il était chef de cette cohorte romaine, italique. Alors, moi je ne m'en vais pas là. Il y est allé. Puis qu'est-ce qu'il y a eu? La conversion de Corneille. Si vous savez, Corneille, on aurait pu tout de suite le nommer ancien. Parce que des fois, on hésite avec des chrétiens qui le sont depuis des années, de les nommer anciens parce qu'ils n'ont pas un témoignage comme ce païen en avait un. Vous avez déjà remarqué le chapitre 10 des Actes, au sujet de Corneille, il avait le caractère d'un ancien, puis il était païen. Mais il cherchait Jésus, c'était un homme de prière, il aurait voulu être éclairé. Mais il avait bien élevé ses enfants, il gouvernait ses enfants, il était un bon maître dans sa maison, il était respecté de tous, et ses œuvres, quoique païens, étaient agréables à Dieu. Il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. C'est quelque chose, ça, hein? C'est ce qui est demandé d'un ancien. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Et voilà, un homme, une fois qu'il a cru au Seigneur, on pouvait le nommer ancien parce qu'il avait derrière lui tout un témoignage. Et puis même ses officiers étaient ses amis, il pouvait parler à ses officiers et il a envoyé de ses serviteurs et de ses officiers en leur racontant tout ce qui s'était passé. Il a été visité par un ange, il les envoie à Joppé. C'est quelque chose de merveilleux. Bien mes amis, je demande au Seigneur qu'il nous délivre de nos écailles, de nos étroitesses, de nos préjugés, et que nous devenions des hommes et des femmes disponibles. Et que nous ne jugions plus ceux que le Seigneur emploie ici et là. Voyez-vous, de quoi le Seigneur a-t-il eu besoin dans son existence, vous savez? Où est-ce qu'il est dit que le Seigneur a eu vraiment un besoin? C'est lui-même qui l'a dit. Il devait entrer à Jérusalem, puis il n'avait pas de monture, parce qu'il n'était pas propriétaire, il n'avait pas un ranch. Alors, il dit à de ses disciples, allez là vers Bethphagé, vous y trouverez un petit anneau attaché, et vous le détacherez, vous me l'amènerez. Puis si on vous demande quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. Alors on a détaché l'anneau, il y a eu les réflexions, ils ont dit le Seigneur en a besoin. Alors on a amené l'anneau au Seigneur. Les disciples ont mis les vêtements dessus et Jésus s'est assis sur les vêtements et l'anneau a porté le Seigneur. Bien, tout ce que je désire, toute mon ambition, c'est d'être seulement ce petit anneau du Seigneur. Quelquefois, des disciples mettent leurs vêtements par-dessus moi, que ce soit une robe blanche ou que ce soit une robe noire, peu importe, pourvu que le Seigneur s'asseye dessus. La seule question, c'est que le message passe. Et quelqu'un m'a dit, oh, vous savez, vous pouvez prêcher comme ça, mais ça passerait mieux parce que les gens sont habitués. Celui qui va prêcher ait une robe. Alors, est-ce que vous accepteriez? On ne vous oblige pas. Je me dis, qu'est-ce que ça peut faire? Oh, mais j'ai passé toute une nuit avant de me décider. Hein, parce que j'avais des sueurs. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est toujours cette histoire. Mais qu'est-ce qu'on va dire si on voit que j'ai prêché dans une robe? Vous savez, je ne touche pas avec la robe. Hein. Parce qu'il y a des pasteurs aussi qui ne peuvent pas se passer de la robe. Hein. Mais quand j'étais dans les Cévennes, en France, justement, dans un pays ultra protestant, les pasteurs qui m'avaient appelé, ils avaient fait une grande foule, il y avait 1500 personnes, ils ont dit, vous savez, monsieur, nous, on ne voudrait pas vous obliger, mais vous savez, les gens des Cévennes, les Huguenots, ils sont habitués à voir le pasteur en robe, alors si vous n'avez pas la robe... Moi, j'ai transpiré, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et puis, pour finir, le Seigneur m'a parlé par cette histoire d'un anneau. Tu seras mon petit âne, j'ai besoin de toi pour porter mon nom à l'est, dans cette ville bien protestante. Eh bien, les pasteurs mettront leurs vêtements sur toi, comme les disciples ont mis leurs vêtements sur l'anneau, et moi, je m'asseyerai dessus, et puis tu prêcheras, et ça ira. Alors, quand le Seigneur vous a parlé comme ça, on peut vous couper la tête après. Mais ça fait rien, j'étais sûr que j'avais fait la volonté du Seigneur. J'ai eu des critiques, bien entendu. Vous imaginez bien, des longues lettres. Comment est-ce que vous avez pu faire ça, etc. Mais l'habit ne fait pas le moine. Alors, comme j'avais déjà mis une robe noire, quand à Jérusalem, on m'a dit un jour, vous connaissez le père Jean Roger qui m'a dit, ça passerait mieux si à Saint-Pierre en Galicante, tu prêchais avec la robe. Puis Bercheba aussi m'avait dit ça. Mais sa robe à lui, comme il était grand, hein, il était un peu écrasé, mais enfin, ça fait rien. Et le message a passé. Mais enfin, leur robe, elle était blanche. Mais je n'ai pas fait la messe. J'ai apporté l'évangile. Et vous savez, c'est une joie. Je sais que dans un mois, si Dieu me prête vie, je serai de nouveau dans cette paroisse avec les filles, comme les appelait le Père Jean-Roger, qui est auprès du Seigneur maintenant, pour annoncer aussi l'évangile. Ce n'est pas l'habit. D'abord, une robe, on l'appelle le cache-misère. Mais oui, c'est le cache-misère. Si on a inventé, c'est misérable, alors ça masque tout. Mais c'est pas la robe qui fait. Comprenez le bien. Soyons assez souples. Ça, c'est pas la défense de la vérité. C'est pas la défense de la vérité. La défense de la vérité, c'est l'enseignement des apôtres. Et l'apôtre Paul, il disait, je me fais tout à tous, afin d'en gagner quelques-uns. Ce qui compte, d'abord, c'est pas que moi je sois vu, c'est que le Seigneur soit entendu. Et qu'il soit vu. Et qu'il n'y ait pas d'obstacle. Enlevons les pierres de devant les âmes. Parce que si moi je veux m'imposer dans ma manière, eh bien, je heurte. Tandis que si je peux disparaître, ça vaut beaucoup mieux. Alors, c'est une préparation à cette communion fraternelle. La fraternité, elle vient de ce que je connais Dieu comme mon Père. Mon Père qui fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants, qui donne sa pluie sur les justes et sur les injustes. Alors, quand je l'ai reçu, vous êtes devenus mes frères. On est frères et sœurs en Jésus-Christ. On n'est pas des cousins germains au deuxième degré, troisième degré, quatrième degré. Hein. Nous sommes vraiment des frères. Est-ce que nous osons nous appeler frères? Est-ce que nous osons nous appeler sœurs en Jésus-Christ, et est-ce que nous osons nous manifester un petit peu de communion, un petit peu d'amour? Moi, je trouve que je veux me remettre vraiment à l'école de Jésus. Quand vous allez dans une maison, il dit, faites le tour de la maison, passez par derrière, regardez s'il y a un homme qui en vaut la peine. Non, il dit pas ça. Quand vous allez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Donc, toujours préjugé favorable. On ne sait pas ce qu'il y a dans la maison. Que la paix soit sur cette maison. Et puis, s'il y a un homme de paix, tu peux entrer dans la maison, puis tu peux parler, tu peux enseigner. Puis, si on te repousse, ben, tu ne perds pas la paix. Il est dit que la paix, elle revient sur nous. Hein? Alors, on repart en paix, quand même si on se pousse et souillait. Mais enfin, comprenons bien cela. Comprenons bien cela. Ayons un préjugé favorable. Ne soyons pas des sectaires. Parce que vous savez, c'est terrible. Notre attitude, Abraham, le bon Abraham, le brave Abraham, le saint Abraham. Eh bien, Abraham, il a mis dans une situation épouvantable un roi païen, le roi Abimélec, parce qu'il lui a fait croire que sa femme était sa sœur, puis ça a mal tourné. Mais le Seigneur est tellement bon que pendant la nuit, il a parlé en songe à Abimélec, qui lui a dit, attention, hein, cette femme que tu as prise, c'est la femme d'un autre. Et puis Abimélec dit, mais j'ai fait cela dans la droiture de mon cœur, et tu sais bien que je ne l'ai pas encore touchée. Puis Dieu lui dit, c'est justement moi qui t'ai empêché de coucher avec elle. Moi, je trouve ça c'est admirable. Un Dieu qui empêche un roi païen de pécher. Vous trouvez pas que c'est beau? Alors que nous justifions de toutes les grâces que nous pouvons faire, hein, comme chrétiens. Parce qu'on est quand même encore dans la chair. Dieu empêche un païen de pécher parce qu'il dit, oui, je sais que tu as fait cela dans la droiture de mon cœur, de ton cœur. Et il l'a empêché. Alors quand Abimélec demande des comptes à Abraham, puis lui dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as fait un coup pareil de me dire que c'est ta sœur, alors que c'était ta femme? Et vous savez ce qu'il dit, Abraham? Je pensais qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu dans ce pays. C'est exactement ça. Nous pensons qu'en dehors de chez nous, de notre milieu, il n'y a pas de crainte de Dieu chez les autres. Or, la crainte de Dieu, vous pouvez la trouver dans bien des foyers du Québec encore. Même que vous n'avez aucun rapport avec eux. Il y a eu, et du reste, j'étais heureux d'entendre le témoignage. C'est Suzanne qui s'appelle? la violoniste, hein, qui a rendu ce témoignage que ses parents avaient la crainte de Dieu et qu'elle avait été touchée déjà par ce que ses parents faisaient d'après les lumières qu'ils avaient. Voilà quelque chose qui est très beau d'une fille qui ne crache pas dans le puits où elle a bu et qui ne fait pas une croix sur son passé simplement, mais qui reconnaît que dans la mesure où ses parents connaissaient certaines choses, eh bien, elle a été impressionnée par ça. Ça, c'est un beau témoignage. Et je crois, voyez-vous, que honorer son père et sa mère, c'est le premier commandement avec promesse et que nous devons nous en souvenir. Et quand on se convertit au Seigneur, même si vous avez maintenant plus de lumière que vos parents, eh bien, souvenez-vous de ce que vos parents ont été, de ce que vos parents ont fait. Manifestez dans votre existence un changement sans parole. N'essayez pas de les convertir à toute force en leur donnant à penser que vous allez changer, vous, de religion. Parce que si vous aviez changé simplement de religion, vous auriez changé de chemise seulement. Et votre cœur n'est pas changé. Mais si votre cœur est changé, eh bien, vos parents s'apercevront qu'il y a quelque chose. Et finalement, c'est eux qui vous poseront des questions. Et je crois qu'un vrai converti, il n'est jamais plus grand que quand il va demander pardon à son père et à sa mère. Parce que bien souvent, on a fait pleurer des parents qui n'ont pas les lumières que nous avions, mais on les a fait pleurer parce qu'ils avaient quand même la crainte de Dieu. Et il y a des choses que nous étions en train de faire qui ne leur plaisaient pas. Et peut-être qu'ils priaient, je ne sais pas quel saint, peut-être c'était Dieu lui-même, mais enfin, je n'ai pas à juger de leur vie. Mais je sais qu'un véritable enfant de Dieu, il s'humilie d'abord. C'est le premier travail de la conversion. Quand on s'est converti au Seigneur, on est d'abord brisé parce qu'on a eu la révélation de ce qu'on était, et si on est sauvé par grâce, puis on dit, comme je voudrais que mes parents le soient aussi. Mais donne-moi de ne pas être un obstacle à leur conversion ou un retard à leur conversion. Parce qu'on s'est mal pris, parce qu'on était tout gonflé d'un zèle qui n'était qu'un zèle charnel. Et puis on n'était pas même encore très transformés quand on allait déjà leur prêcher du haut de notre échelle, n'est-ce pas, à nos pauvres parents qui sont des ignorants, qui étaient dans les ténèbres, qui sont encore dans les ténèbres et qui vont vers la perdition éternelle. Ce n'est pas comme ça que nous rendons témoignage. Il faut qu'ils se sentent aimés par le cœur d'un fils qui est régénéré. Et un cœur régénéré et dans un fils, c'est quelque chose de merveilleux pour les parents. Ils s'en apercevront sans parole. Et c'est eux qui finalement vous poseront des questions et vous demanderont la raison d'espérance qui est en vous. Et vous le leur direz avec douceur et crainte. Vous témoignerez de l'espérance qui est en vous, et vous pourrez leur parler de Jésus, non pas d'un autre Jésus que le leur, parce que figurez-vous que c'est quand même le même Jésus, même s'ils ne le connaissent pas, même s'il n'est que sur le crucifix, mais enfin il n'y a pas deux crucifiés, c'est Jésus qui est évoqué dans cette image. Bien sûr que nous n'avons plus besoin de cette image, mais mes amis, quand vous fermez les yeux et que vous priez, puis que vous pensez au Christ crucifié, qu'est-ce que vous voyez dans votre vision intérieure? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une croix quand même, hein? Et puis, vous voyez un corps sans vouloir mettre une image de Jésus, mais vous voyez un corps sur cette croix, une couronne d'épines. Intérieurement, il y a une image qui se dresse. Comprenez-vous? Quand on prie, et quand Paul présentait Jésus-Christ crucifié, bien les gens, cette évocation leur montrait Jésus crucifié au milieu d'eux. Nous l'avons dit chez les Galates. Alors ne jugeons pas. Ayons cet amour. Soyons reconnaissants des lumières que le Seigneur nous a données, mais n'éblouissons pas les gens. Ce que je dis souvent, quand vous rencontrez une âme, baissez vos phares. Parce que vous êtes en pleine lumière, hein, puis vous pensez, vous foncez avec vos grands pas, parce que vous avez la lumière, mais vous éblouissez les gens qui viennent de l'autre côté. Puis qu'est-ce que ça fait? Ils perdent la direction, puis c'est la catastrophe, c'est la collision. Quand vous croisez une âme, baissez vos pas, puis éclairez le chemin, simplement. éclairer le chemin et les gens verront. Et ça se passera bien. Mais nous, on veut éblouir. Ou alors quand deux personnes de deux groupes d'assemblées se disputent. Chacun a sa lampe, a sa lumière. Et puis, il dit, non, moi j'ai plus de lumière que toi, puis c'est moi, n'est-ce pas, qui est la vérité. Puis l'autre dit, non, c'est chez nous qui est la vérité. Alors vous voyez ces deux lampes, on commence à s'échauffer, puis pour finir, bam, on se cogne. Et puis qu'est-ce qui arrive? Les lampes s'éteignent. Ça fait plus de ténèbres. C'est vrai ou c'est faux? Vous les connaissez, ces bagarres? Les lampes s'éteignent, puis on ajoute aux ténèbres. Tandis que si on disait bien, on ne comprend pas encore tout à fait la même chose, mais si on marchait l'un à côté de l'autre avec nos deux lampes, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait un peu plus de lumière. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. C'est simplement de désirer éclairer davantage le chemin. Puis le Seigneur nous révélera sur les points où nous ne sommes pas d'accord. Mais il dit, cependant, dans les choses auxquelles vous êtes parvenus, marchez d'un même pas. Il n'est pas dit cognez-vous. Il n'est pas dit bagarrez-vous. Et vous savez, quand on sera là-haut au ciel, le Seigneur nous dira, mais toi tu voyais surtout un aspect de la vérité, l'autre voyait surtout un autre aspect. Il fallait les rassembler. Vous aviez raison tous les deux, mais vous aviez tort de vous bagarrer. Je dis souvent, si tu regardes ma main, puis je te demande, décris-moi ma main comme tu la vois, vous me direz, on voit un M, là, je ne sais pas si ça veut dire mort, mais en tout cas, il y a une espèce de lettre comme ça. Mais s'il y a quelqu'un derrière moi, puis je lui dis de décrire ma main, il me décrira le dos de ma main. Vous me décrivez la paume, puis le dos, puis je dis, non, c'est pas exact. Il y en a un qui dit quelque chose de faux. Non, les deux disent juste, mais il faut les réunir. Il faut réunir les deux choses au lieu de les opposer. Bien souvent, au fond, on oppose des choses qui pourraient se réunir, qui pourraient être mises ensemble pour notre édification. Souvenons-nous que nous ne connaissons qu'en partie. Alors, nous sommes maintenant des frères et sœurs en Jésus-Christ. Et alors, pour savoir comment persévérer dans cette communion fraternelle, c'est une relation d'être frère et sœur en Jésus-Christ. Si je suis né de nouveau, c'est une relation qui ne peut pas être rompue.
La relation d'enfant, c'est la relation qu'on ne peut pas rompre. On peut avoir des défaillances, un enfant peut faire beaucoup de peine à ses parents, on peut pleurer sur nos enfants, mais il reste envers et contre tout notre enfant. La relation d'enfant ne peut pas être brisée. Alors, dans la communion fraternelle, en nous souvenant de cela, eh bien, comment est-ce que je peux la concevoir? Je la conçois, selon les Écritures, par 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce que nous apprenons là? Je ne vous ai pas cité tous les versets, parce que je ne veux pas vous assassiner, mais j'espère que vous comprenez que derrière toutes mes pensées, il y a un texte biblique. Verset 9 du chapitre 1er des Corinthiens, il est dit « Dieu est fidèle. » Bon, je lirai tout verset 8. « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. » Il vous affermira jusqu'à la fin, ça veut dire que nous pouvons persévérer parce que lui va nous donner une force jusqu'à la fin. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur viendra. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à quoi? À la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux, ça. Vous êtes appelé non seulement au salut, vous êtes appelé à la grâce de Dieu, mais maintenant vous êtes appelé à avoir tout en commun avec qui? Avec Jésus-Christ. Vous êtes, c'est ça votre appel, vous êtes appelé à la communion de son Fils. Et la communion du Fils, il avait communion avec qui? Lisez maintenant 1 Jean chapitre 1er. Le Fils sur la terre, quelle était sa communion? Lui qui faisait toujours les choses qui plaisaient au Père, n'est-ce pas? Il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père, il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père. Et l'apôtre Jean, qui a vécu si près du Seigneur, nous dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, c'est ça l'enseignement des apôtres, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Donc la vie, c'est quelqu'un, c'est le Seigneur. Et ce Seigneur, il a été vu. Ce Seigneur qui était auprès du Père, il a été vu. Il a été entendu, ce que nous avons entendu. C'est toute la prédication du Seigneur. Ce que nous avons vu nos yeux. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont vu de leurs yeux? Ils ont vu le Seigneur allant de lieu en lieu, faisant du bien. Ils ont vu des morts ressuscités, des lépreux guéris, des paralytiques marcher. Ils ont vu ça de leurs yeux. Et puis, ce que nous avons contemplé, qu'est-ce qu'ils ont contemplé? Ils ont contemplé la croix. Ils ont contemplé l'amour du Seigneur et qui est allé jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et puis maintenant, ce que nos mains ont touché, c'est quoi? C'est la résurrection. Ils l'ont touché. Viens ici, Thomas. Mets ton doigt dans mes plaies. Mets ta main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant. Eh bien, voilà le témoignage des apôtres. Ce qu'ils rendaient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ce qu'ils enseignaient. Concernant la parole de vie, la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. Cette vie éternelle. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose. Depuis tant d'années, je m'exprime à dire, c'est pas un billet de chemin de fer pour le ciel. Ce n'est pas une police d'assurance contre l'incendie éternel. Ce n'est pas un passeport qui vous donnerait un visa signé par le sang de Jésus pour que vous puissiez passer la frontière céleste. Non, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose. La vie éternelle, c'est quelqu'un. Le salut, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Mes yeux ont vu ton salut, dit le vieillard Siméon. Il a vu le salut en Jésus. Et le salut, c'est quelqu'un qui habite en nous. J'ai pas le salut dans ma poche. J'ai le salut dans mon cœur. Si j'ai livré mon cœur ô Seigneur. Voilà le témoignage de Jean. Et la vie éternelle, c'est cette connaissance du Seigneur, c'est Christ en nous, et l'espérance de la gloire. Et il dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Nous sommes appelés à la communion de son Fils. Le Fils était en communion avec son Père. Et maintenant, nous, si nous avons communion avec les apôtres qui ont témoigné, si nous avons reçu l'enseignement des apôtres, eh bien, qu'est-ce qu'il est dit? Notre communion est avec qui? Vous ne faites pas que c'est merveilleux, ça? Avec qui? Avec le Père et le Fils. Alors, ça veut dire, si vous avez communion avec le Père et le Fils, que vous avez en vous la vie de qui? La vie du Père et la vie du Fils, par la puissance du Saint-Esprit. De sorte que l'homme qui est une trinité, esprit, âme et corps, reçoit le Dieu tout entier, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui a dit que celui qui l'aime serait aimé de son Père, et il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Père qui est esprit dans notre esprit, le Seigneur dans notre âme, dans notre vie psychique, ce n'est plus moi, mon âme, qui vit, c'est le Christ qui vit en moi, et le Saint-Esprit dans notre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va dominer nos sens. Dans le corps, nous avons le siège des sens. Dans l'âme, nous avons le siège du moi, de notre personnalité, et dans notre esprit, c'est par notre esprit que nous communiquons avec Dieu. C'est la partie supérieure et immortelle de notre être. Quand le corps retourne à la poussière, c'est l'esprit qui retourne à Dieu et qui l'a donné. Alors, c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir penser que le Dieu tout entier veut habiter dans l'homme tout entier. Pour que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et je ne vous mens pas, c'est ce que l'Écriture nous enseigne. La plénitude est dans son Fils. La plénitude, c'est plus à habiter dans son Fils. Alors, si vous avez reçu le Fils, qu'est-ce que vous avez reçu? La plénitude est en lui. De sorte que n'essayez pas d'attendre quelque chose qui vienne du dehors. Mais dites-vous, pourquoi est-ce que cette plénitude ne se manifeste pas en moi? Eh bien, c'est parce que nous avons gardé trop de mobilier dans notre cœur, trop de meubles. Il faut demander plutôt à la déménageuse de venir pour sortir tous les vieux meubles pour que le Seigneur, avec sa plénitude, puisse s'installer avec son mobilier neuf. Parce qu'il a un mobilier. Et quand lui se sera installé vraiment dans toutes les parties de notre vie, il nous invite à rentrer, puis nous sommes en lui, chez nous. Hein. C'est quelque chose de merveilleux. C'est lui qui devient le propriétaire. Alors, vous avez plus besoin d'avoir peur d'une élévation du loyer. Le Seigneur a racheté la maison, c'est lui qui s'installe, c'est lui qui fait toutes les réparations, qui vous dit, ben maintenant tu peux rentrer, moi je te donne une chambre. Mais c'est moi le maître, hein. C'est quelque chose de merveilleux, ça, c'est quelque chose. Le Seigneur ne vous trompe pas, et vous pourriez avoir beaucoup moins de soucis. Laissez le Seigneur entrer, laissez le soleil entrer, comme on chante dans un cantique. Laissez le soleil entrer, et vous verrez qu'il vous apportera aussi la santé, il vous apportera la joie, il vous apportera vraiment cette communion fraternelle. Vous vous rendez compte? Avoir communion, ça va loin, chers amis. Hein? On ne va pas dormir cette nuit. Vous vous rendez compte? Ben, ce serait bien d'avoir une nuit de veille, mais de veille dans la joie. Que je me rends compte, j'ai communion avec tout ce que le Père est, j'ai communion avec tout ce que le Fils est, puis pourquoi est-ce que je suis encore si misérable? Et c'est parce que je regarde non plus, au lieu de regarder les richesses qui sont là pour moi, que je contemple un peu tout ce que j'ai en lui. C'est lui qui va s'installer, c'est lui qui va faire sa demeure en nous. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui, mais donnez-lui les clés, complètement. Toutes les clés, pas seulement une clé, les clés. Et même du petit KGB que vous gardez fermé, parce qu'il y a quand même encore quelque chose là, vous les gardez pour vous, non, il voudrait aussi cela. Donnez-lui toutes les clés, même la dernière. Parce que le Seigneur dit toujours, je me tiens à la porte et je frappe. Puis, soyez certain que même chez un chrétien sauvé, le Seigneur n'emploie jamais un passe-partout. Vous lui avez donné la plupart de vos compartiments, de vos appartements, mais il y en a un que vous gardez, et puis c'est fermé. Ben, le Seigneur, si vous ne lui donnez pas la clé, il ne prendra pas un passe-partout pour essayer d'ouvrir. Il ne force pas les serrures. Le Seigneur n'est pas un violeur de serrures. La clé, c'est vous qui l'avez. Et bien souvent, vous savez, quand il frappe à la porte, la clé, elle est à l'intérieur et c'est à nous d'ouvrir. C'est à nous d'ouvrir. On croit toujours qu'on peut nous ouvrir les âmes avec un passe-partout, on a un texte ou un autre. Et puis, on dit, si j'emploie ça, ça va ouvrir les cœurs. Non. Chaque cœur, je le répète souvent, a sa serrure secrète et la clé est à l'intérieur. Alors ouvrez. Alors le Seigneur entrera, et vous pourrez fermer. Il soupera avec lui et lui avec moi. Tandis que si on force la serrure, eh bien, voilà, c'est ouvert, mais la serrure est abîmée. Alors, il y a un moment, le monde qui entre, le monde, le Seigneur, puis ça claque. Et il faudrait réparer la serrure. Hein, alors. C'est pas cela. Vous devez chercher une intimité avec le Seigneur. Alors, vous aurez une communion réelle avec le Seigneur et avec le Père. Nous vous écrivons ces choses, verset 4, voilà le remède pour la joie, afin que votre joie soit parfaite. C'est pas moi qui le dis, c'est aussi dans vos Bibles. Et la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous disons, alors voilà maintenant, hein, ça nous parle. Est-ce que nous le disons? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Il ne va pas par quatre chemins, Seigneur. Nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comment maintenir la communion fraternelle? C'est en marchant dans la lumière. Voilà le secret. Vous voulez maintenir la communion fraternelle avec tous vos frères? Eh bien, marchez dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. C'est pourquoi, si souvent nous n'avons pas communion avec d'autres chrétiens, c'est que nous ne marchons pas nous-mêmes dans la lumière. Mais quand on marche dans la lumière, comme lui est dans la lumière, on ne suppose pas le mal chez les autres, on estime son prochain supérieur à soi-même, voilà ce qui maintient aussi la communion fraternelle, on ne se dit pas « moi j'en sais plus que l'autre », on est humble, on est petit à nos propres yeux, et alors marchant dans la lumière, comme lui est dans la lumière, eh bien, nous avons communion mutuelle, une communion les uns avec les autres, et puis, ce qu'il y a, le sang du Christ nous purifie de tout péché. Parce que pour maintenir la communion fraternelle, pour persévérer dans la communion fraternelle, il faut marcher dans la lumière, parce que une fois qu'on est sauvé et qu'on est dans la lumière, qu'est-ce qui se manifeste? Tous nos péchés. Parce que c'est depuis que je suis converti que je sais ce que c'est que le péché. Le jour de ma conversion, je croyais que j'étais bien mauvais. Hein. Mais vous savez, maintenant, je ne me fais plus d'illusions du tout. Parce que je suis pire qu'avant. Je ne vais pas vous dire, vous voyez maintenant ce que je suis devenu. Non. Quand on se connaît devant Dieu, on se voit plus noir que jamais. C'est ça le progrès. C'est vrai ou c'est faux? Et une marche dans la lumière, s'il n'y avait pas le sang de Christ qui nous purifie de tout péché, une marche dans la lumière, ça nous conduirait où? Au suicide. Parce qu'on serait complètement désespéré. Parce que si vous pensez que vous vous êtes amélioré depuis votre conversion, eh bien vous vous illusionnez complètement. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que la chair s'améliore après la conversion? Non. Et au lieu de voir toujours les ennemis au dehors, on les voit au dedans. Et on se défie de la chair, si on dit comme c'est vrai, Seigneur, qu'il n'y avait rien à faire avec moi, et que je ne méritais que la condamnation et la mort. Hein. Mais au lieu de regarder à notre misère, on finit par se lever de devant son mort, comme Abraham, parce que plus vous restez devant votre mort, devant votre cadavre, ça se corrompt. Alors, ça ne va pas. Il se lève de devant son mort, et puis comme Job, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne regarde plus à moi, je regarde au Seigneur. Et ma vraie vie, c'est la vie que j'ai en lui. C'est lui qui est ma vie. C'est ce que Paul dit, Christ est ma vie. Et si vous voulez savoir,
et c'est ça qui vous fera du bien,
comment Dieu vous voit, lui. Vous, quand vous vous regardez, vous vous désolez. Hein?
C'est vrai, qu'est-ce que je suis? Puis voilà, j'ai encore ceci, puis j'ai encore ça. Hein?
Et on est découragé, on est déprimé. Et c'est la maladie du siècle, la dépression, hein? Parce qu'on se regarde de nombril. Il y a toujours de la poussière, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Levez les yeux en haut, regardez. Celui que vous voyez là, il est mort à la croix. C'est pour lui que le Seigneur est mort.
Quand Dieu n'a pas répondu à son fils, c'est parce que j'étais là, cet homme que je vois, il a été là à la croix en Christ. Et Christ a été frappé pour moi. Mais quand Christ est ressuscité, il m'a pris avec lui et je suis déjà enlevé avec lui. Je suis déjà dans les lieux célestes. Je suis déjà assis sur le trône. Et le combat, il se mène de dessus le trône. C'est pas moi qui l'invente, il est dit ça dans Éphésiens 2. Il nous a pris avec lui, il s'est assis dans les lieux célestes et nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. De sorte que, si vous voulez savoir comment Dieu vous voit, regardez le Christ. Et vous saurez que Dieu ne vous voit plus qu'en Christ. C'est lui qui est votre vie. Le Dieu suprême, le Dieu trois fois saint, vous voit dans les perfections de son Fils. Alors c'est quelque chose de tonique, mais vous ne pouvez plus vous enorgueillir. Vous ne pouvez plus vous attribuer quelque chose. Toute gloire revient au Seigneur. Alors nous marchons dans la lumière comme lui est dans la lumière, et au fur et à mesure, eh bien, il y a des péchés qui nous sont manifestés, péchés en parole, péchés en pensée, péchés en action, on devient beaucoup plus sensible. Le jour de notre conversion, on a pensé faire une grande confession de péché, mais maintenant, à mesure que j'avance, il y a des choses qui me sont révélées et dont je dois me juger. Mais je sais que je ne perds pas mon salut, mais que le sang de Christ est là pour me purifier des péchés qui me sont montrés. Et nous ne vivons pas dans le péché, alors nous les confessons, nous les jugeons, et il est dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Mais ça, c'est dans la marche, et c'est cela qui maintient la communion. Parce que qu'est-ce qui risque de ruiner la communion fraternelle? C'est la jalousie. Vous pouvez prendre, alors on pourrait essayer de prendre, d'énumérer tous les péchés, toutes les œuvres de la chair. On est jaloux d'un frère. On l'aimait bien, ce frère, mais maintenant, on voit qu'il nous dépasse. Alors, on commence à être un peu jaloux. Ben, ça, c'est un péché. Puis, on n'a plus la même communion fraternelle, parce qu'il y a un grain de jalousie, un grain d'envie, parce que cette sœur, ben, elle a des moyens que moi, je n'ai pas. Puis, je ne vais pas énumérer tout ce qui pourrait venir, mais voilà, au fur et à mesure qu'on avance, tout à coup, il y a tel péché qui nous est manifesté, qui interrompt ma communion avec les autres. Mais pas seulement avec les autres, ça interrompt ma communion avec le Seigneur. Alors je me juge de cela, et alors marchant dans la lumière, l'obstacle est mis de côté. Alors c'est en voyant la communion que le Fils avait avec le Père que nous savons, que nous saurons ce que peut être la communion entre frères. Et je dirais, lisez maintenant le chapitre 13 des Corinthiens, vous le savez par cœur, je le pense, hein, et vous verrez que la communion fraternelle, c'est l'amour fraternel manifesté. Vous pourriez avoir le don des langues, vous pourriez avoir la connaissance de tous les mystères, vous pourriez être même très généreux, distribuer tous vos biens pour les pauvres, vous pourriez même être très courageux et donner votre cœur pour être brûlé. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Et alors, comment est-ce que l'amour se manifeste? Eh bien, voyez, les choses, il y a sept choses positives et qui nous montrent ce qu'est l'amour fraternel. Il est patient, il est plein de bonté, il se réjouit avec la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Mais voyez maintenant ce qu'il ne fait pas. Il y a neuf choses qu'il ne fait pas. Il n'est pas envieux, il ne se vante point. Quand je me vends, c'est péché. Alors, le sang de Christ me purifie de tout péché quand je le confesse. Si je me vends, c'est péché. Il ne sent pas d'orgueil. Si je me crois quelqu'un, ou parce que l'on m'a dit en entrant, « Suratine, alors vous êtes en forme pour cette semaine ?» Si je vous dis « Oui, je suis en forme », c'est la catastrophe. Je me suis enflé d'orgueil. Pourquoi est-ce que je serais en forme? mon Seigneur, il était sans forme, et c'est quand il était sans forme sur la croix qu'il a sauvé le monde. Mais le jour où moi je me prends en forme, prédicateur, eh bien c'est une catastrophe, parce qu'on voit la forme de l'homme. C'est pas beau la forme de l'homme. C'est sa forme à lui. Et souvenez-vous que Jésus, il a sauvé le monde en étant sans forme. Il était en forme de Dieu. Il a eu ni forme ni éclat quand nous le voyons. Pas ça qui compte. L'amour ne pense point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Vous voulez maintenir la communion fraternelle? Toute malhonnêteté doit être exclue. Il ne cherche pas son propre intérêt. Si je vois que je suis intéressé à quelque chose, c'est mon intérêt, c'est pas l'amour. Et je détruis la communion fraternelle. Je dois être intéressé par l'intérêt des autres. Et alors, il ne s'irrite pas. Petit Jonas qui s'irritait, hein. On a dit ça la semaine dernière. Et puis il disait à Dieu, oui, je fais bien de m'irriter. Est-ce que tu viens, Jonas, de s'irriter? Oui, je fais bien de m'irriter. Vous voyez comment on peut tenir tête à Dieu. L'amour ne s'irrite pas. Alors quand vous dites, moi je m'irrite, mais j'ai une sainte colère. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup de saintes colères. On s'excuse toujours. Nos colères, ce sont des saintes colères. Misère. C'est les nerfs. C'est pas si sain que ça, mes nerfs. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Vous voyez ça, hein? Vous voulez maintenir la communion fraternelle. Puis vous dites, oui, quelqu'un vient vous dire, tu sais ce frère, il a ceci, il a ça, tu sais cette sœur. C'est comme ça que vous allez maintenir la communion fraternelle. Puis on est presque content qu'on nous dise du mal de quelqu'un, de notre assemblée, de notre groupe, parce que vous savez, on a tellement de peine, nous, à grandir, que quand on abaisse les autres, on se croit plus grand. Mais c'est simplement parce qu'on a abaissé les autres, mais on n'est pas grandi. Souvenez-vous, nous sommes des tordus. Hein? Nous sommes vraiment tordus. Et c'est le Seigneur qui le dit dans Jérémie 17. Le cœur de l'homme est trompeur, tortueux par-dessus tout. Qui le connaît? Il faut qu'on admette ça. C'est vrai ce que tu dis de nous. C'est pas glorieux. Vous savez, quand on lit la Bible puis qu'on se laisse corriger par elle, on ne sort pas glorieux. Vous allez dire, ben écoutez, on était venu pour cette fin de semaine, pour justement la communion fraternelle. Mais justement, je voudrais que vous l'ayez, cette communion fraternelle. Alors je vous dis ce qu'il ne faut pas faire pour que vous la maintenez. Pour que vous ayez une communion fraternelle toujours plus heureuse. Alors souvenez-vous que la communion fraternelle, l'amour fraternel, bien c'est cet amour mis vraiment en action. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. On ne se réjouit pas quand quelque chose de massage chez les autres. Et puis, il est dit qu'il ne périt jamais. Il ne périt jamais. Et alors, si vous voulez maintenir la communion fraternelle, prenez encore ce texte de Matthieu 7, verset 12, qu'on a appelé la règle d'or. On a fait un camp à Anaïm pendant 15 jours en méditant sur cette règle d'or. Qu'est-ce que c'est la règle d'or? Vous la connaissez? Tout ce que vous voulez que les hommes ou les femmes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est ça la règle d'or. Hein? C'est ça. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, moi, je trouve que c'est un verset fantastique, celui-là, parce qu'il nous donne un tas d'idées. Hein. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous? Puis quand vous avez l'idée, voilà ce que je voudrais qu'on fasse pour moi, ben, le Seigneur me dit, ben, va le faire pour l'autre. Puisque tu voudrais qu'on fasse ça pour toi, c'est le pour l'autre. Et voilà, tout à coup, j'ai des idées pour l'autre, mais des idées positives et non pas des idées négatives. Comprenez-vous? Et alors, ça fait du bien aux gens. Parce que si vous êtes jaloux, d'abord c'est très mauvais pour la santé. Vous aurez très vite le teint jaune. Parce que, oui, quand on est jaloux, ça fait des toxines et puis vous risquez d'avoir une jaunisse. Hein, par jalousie. Tandis que, si vous pouvez dire au Seigneur, mais je veux me réjouir, parce que qu'est-ce que c'est l'Écriture? Il a dit qu'on sympathise quand on est membre du corps. Si un membre souffre, tous les autres, ah ça alors je suis d'accord. Hein. Si un membre souffre, quand même, j'ai de la compassion pour ces frères qui souffrent. Mais quand on vous dit, si un membre se réjouit, tous se réjouissent. Est-ce que c'est vrai? Vous apprenez le bonheur de quelqu'un? Ça m'est pas arrivé à moi. Au lieu de vous dire, mais ça m'est arrivé à moi, les membres de mon corps. Hein? Ça me touche puisqu'il est membre de mon corps. Mais si cette partie du corps se porte bien, c'est moi qui en ai aussi le bénéfice. Comprenez-vous? Si ça, il ne faut pas que ça reste dans les couvertures de la Bible, l'Écriture. Il faut que ça soit inscrit dans notre chair mortelle. Il faut que ces vérités se fixent dans notre sensibilité et alors le Saint-Esprit les réalise en nous. Mais on n'est pas des gens qui piquent un verset quand ça ne va pas pour trouver un encouragement. Le Saint-Esprit vous rappellera au moment voulu les paroles dont vous aurez besoin. Alors, l'amour fraternel, l'affection fraternelle, si vous y persévérez dans la lignée de ce chapitre 13 des Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens, alors vous pouvez voir plusieurs aspects de la communion fraternelle. Elle est dit dans Romains 10, je vous ai indiqué Romains 10 à lire dans l'atelier, comment on doit abonder dans l'amour fraternel, verset 9 du chapitre 12. Que la charité soit sans hypocrisie. L'amour fraternel, il n'y a pas d'hypocrisie, hein. C'est pas de la flatterie. Ma langue ne s'est pas flattée. Si on s'aime en Jésus-Christ, c'est pas un amour hypocrite. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'amertume. Version corrigée. Hein? Soyez plein d'affection. Vous vous rendez compte? Plein d'affection. Oh, mais moi, je ne suis pas affectueux de martyr. Après, je demande au Seigneur le don de l'affection. Oh, on va faire une prière pour que je reçoive le don de l'affection. Soyez plein d'affection les uns pour les autres. Vous savez, notre sœur, elle m'a touchée quand elle a dit « J'ai réalisé que je n'aimais pas ». Et c'est vrai, hein? On croit qu'on aime tout le monde, puis tout à coup, on voit qu'on peut haïr. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Entre mari et femme, pourquoi ça n'existerait pas ça? Persévérez dans l'amour fraternel. L'amour fraternel dans un foyer, il faut qu'il existe. Hein? Entre le mari et la femme. On dit, oh mais c'est ma femme, elle sait bien que je l'aime, j'ai plus besoin de lui dire. J'entends toujours le vieux papa de Benoît qui disait, vous savez, après 10-15 ans de mariage, la femme, elle aime encore qu'on lui dise, tu sais, je t'aime. Et je me souviens d'une grande conférence que j'avais faite à l'Ascension, à Pont-de-Beauvoisin, c'est une ville de France, il y avait peut-être 1200 personnes, c'était tous des amis, des frères et sœurs qui se réunissaient là, puis je leur ai demandé à tous ces braves messieurs, depuis quand allez-vous donner des fleurs à votre femme? Ça a été quelque chose, je n'avais jamais pensé à un truc pareil. C'était quelque chose de presque catastrophique. Parce que les frères, eh bien, ils n'avaient pas même donné le bouquet à la mariée. C'était quelqu'un qui avait fait le cadeau du bouquet de la mariée. De sorte que, après, ben, quand ils allaient faire des visites à quelqu'un, ils apportaient des fleurs à une autre femme, peut-être, hein, parce qu'on les polie, ben, disons, alors, on va faire une visite, on apporte des fleurs, ils vont inviter à dîner. Mais apporter des fleurs à sa propre femme, c'est ma femme. Justement parce que c'est sa femme qui va lui donner les fleurs. Oui, mais il y a si longtemps qu'on est mariés. Tu crois qu'elle n'aurait pas du plaisir d'avoir des fleurs? Ou bien alors la femme qui dit, mais j'ai pas besoin de mettre ma belle robe pour mon mari, il me connaît. Et pourquoi vous ne vous habilleriez pas bien une fois? Que vous attendriez votre mari avec un vêtement convenable, et puis il vous dit, j'attends quelqu'un? Oui, j'attends. Pourquoi c'est toujours pour les autres que vous vous faites belle? Pourquoi vous ne vous fiez pas belle une fois pour votre mari? Et pourquoi vous ne mettriez pas une nappe une fois sur la table? Parce que vous auriez couché les enfants un peu plus tôt, parce que vous savez que votre mari est fatigué, et puis vous avez bien occupé des enfants, puis maintenant vous dites, je vais attendre mon mari. Alors votre mari arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est cette table? On a du monde, c'est ça? N'hésitez, mon chéri. Vous savez, ça renouvelle drôle, ça. Hein? Ça renouvelle l'amour. Il faut entretenir, persévérer dans l'affection fraternelle. C'est pas seulement pour les autres frères et sœurs, mais pour vous dans la cellule familiale. Alors, oui, soyez plein d'affection les uns pour les autres, et puis usez des gardes de prévenance réciproque, on pourrait citer aussi 1 Pierre 1, 22, il est dit « ayant un amour fraternel ardent ». Vous vous rendez compte? C'est pas simplement « un petit baiser ». Oh, tu m'ennuies. Puis peut-être qu'il faudrait se raser. J'ai vu des hommes, même des pasteurs, qui ne se rasaient pas. J'ai dit « pourquoi est-ce que vous ne rasez pas ?»«
Je suis avec ma femme. »
Et on est dégoûtant les hommes, vous ne savez pas. On peut bien, on peut bien. Vraiment, nous sommes des égoïstes. Il faut le reconnaître. La femme, elle a aussi ses petits défauts, hein, mais moi, je vais d'abord nous attaquer, nous. Hein. Alors, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Alors, cette affection, bien, c'est la tendresse aussi. Puis c'est aussi le baiser fraternel, mais... Quand on voyage beaucoup, des fois, c'est un peu ennuyeux, parce que, par exemple, chez les Belges, que j'aime beaucoup, c'est toujours 3 baisers, hein. Alors, paf, 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 parce que c'est la trinité, hein. Et si vous êtes avec un Belge, il vous donne 3 baisers. C'est fraternel, hein. Alors, quelqu'un en avait tellement marre des 3 baisers, il a dit, l'écriture dit, saluez-vous les uns les autres par 1 baiser. Je ne sais pas sur quel jour, si c'est la gauche ou la droite, mais enfin, il en avait supprimé 2. Il y en a un autre qui m'a dit, moi, quand j'entends ses frères qui veulent toujours nous embrasser, je fais comme ça. Là, il bloque son coude, puis ça crée la distance. Il dit, pour maintenir l'amour fraternel, il faut qu'il y ait la distance. Parce que si c'est trop proche, ça dégénère. Bon. Alors, souvenez-vous de ça. Avec certaines personnes, il faut peut-être faire le petit coup, comme ça. Hein. Ça, c'est des petits trucs pour l'amour fraternel. Hein. Et il faut exercer l'hospitalité. Ça fait partie de l'amour fraternel. Mais comment exercer l'hospitalité? Alors là, vous pouvez voir, c'est une des parties de l'amour fraternel. Exercer l'hospitalité sans murmurer. Là aussi, il ne faut pas qu'il y ait d'hypocrisie. Oh, on vous reçoit, oui, on ne vous dérange pas. Non, vous ne nous dérangez pas qu'une fois qu'ils sont loin. Oh, ces gens-là, enfin. Et puis on commence à débiter tout cela, puis nos enfants entendent cela. Puis on leur a fait tous les sourires possibles à ces gens, puis après, on les déshabille. Ça vaut pas la peine. Alors, veillons pour que nous mettions aussi dans l'hospitalité l'amour fraternel. Puis, je lui dirais aussi, le pardon, ça fait partie de l'amour fraternel. Nous pouvons avoir une parole qui vient de nos nerfs. Eh bien, on reconnaît, j'aurais pas dû dire ça. Et puis là, je demande pardon à ma femme. Elle demande du pardon à sa femme. Mais elle encaisse. Elle a déjà oublié ma femme. Pas vrai. Elle a pas oublié. Et puis pour finir, ça se refroidit. Vous voyez, il faut oser dire, écoute ma chérie, je regrette, j'aurais pas dû dire cela. On s'humilie. Et vous savez, vous ne vous abaissez pas quand vous vous humiliez. Vous devenez grand. C'est quand on s'abaisse qu'on est grand. Mais quand on se sent durci, on est vraiment petit. Alors, sachons nous pardonner. Sachons, on pourrait aussi parler de la bienfaisance. La bienfaisance, ça fait partie de l'amour fraternel, de faire part de nos biens, soit dans l'assemblée, soit pour les pauvres, la libéralité. Mais là, il y aurait bien des choses à dire. Puis, il y a le ministère d'exhortation, la répréhension. Mais attention, hein, quand quelqu'un nous dit, c'est moi, j'ai reçu le ministère de l'exhortation, de la répréhension. Alors, je m'en vais trouver tel frère, et je lui dis, vous savez, c'est pas comme ça que vous devez faire, et puis je le reprends, et je l'exhorte, et parce qu'il est dit, exhortez-vous chaque jour. Oui, on doit veiller les uns pour les autres, mais attention, quand vous voulez exhorter un frère, hein, exhortez-vous d'abord devant le Seigneur, vous-même. Jugez-vous vous-même, et allez vers votre frère, même qui doit être pris, si tu vois ton frère Galatis, et qui est dans quelque faute, eh bien, tu vas le trouver, mais non pas avec de l'eau bouillante et une brosse très dure pour lui laver la tête, mais allez lui laver les pieds en vous souvenant de ne pas prendre d'autre chose aussi. Hein. Et puis, exercez ce ministère comme Élie le fait en disant, tu sais, je suis comme toi quand tu as dit, je suis fait d'argile, moi aussi, tu sais, je suis pas meilleur que toi, mais je voudrais quand même t'avertir sur ce point ou sur celui-là. C'est comme ça qu'on maintient la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est pas dire oui, amen à tout, c'est peut-être reprendre son frère, mais on le reprend dans l'amour. et on le reprend en se jugeant nous-mêmes. Et puis, on n'impose pas. Puis alors, on reste dans la discrétion. Ce qui fait beaucoup de mal, c'est qu'on parle des uns et des autres. Et on détruit la communion. On a supprimé des réunions de sœurs. C'est pas pour dire que les sœurs papotent plus que les frères, hein. Mais c'était soi-disant des réunions de sœurs pour faire des habits pour les pauvres. Et ça a été devenu mis à cancan. Pas des camps supplémentaires, mais des cancans. Hein. C'était incroyable. Alors, pour finir, ils ont essayé de corriger ça en disant, ben, on demandera à quelqu'un de faire une lecture pendant tout ce temps-là pour que les gens se taisent. Hein. Ils ne parlent pas des uns et des autres. Pour qu'on ne mette pas sur la sellette une sœur qui n'est pas venue, et puis voilà, on a parlé d'elle, puis tout de suite, quand à la sortie, quelqu'un va lui dire, tu sais, voilà ce que madame a dit de toi, voilà ce qu'elle sera dit de toi, puis on apporte la Bible dans l'église, on détruit la communion fraternelle. Et si quelqu'un vient vous faire une confession, parce qu'il a besoin de vous dire peut-être quelque chose, gardez cela pour vous. Priez avec cette personne. N'allez pas raconter cela. Ne faites pas de cela une affaire publique. Si c'est quelque chose de secret qu'on vous a confié, si vous voyez que la personne est humiliée, eh bien, montrez-lui le chemin du pardon. Et puis aussi, quand vous faites des visites, ça fait partie de l'affection fraternelle. Voilà, vous apprenez que quelqu'un est malade. Mais comment est-ce que vous allez le visiter? On vous dit, moi, je m'en vais rentre-en-plan, là, j'y vais directement. Non, mais téléphonez, prenez d'abord des nouvelles pour savoir, parce qu'on n'arrive pas comme ça. Oh, mais on est frères et sœurs en Christ, ils doivent me recevoir. Ce manque de politesse chez les chrétiens, surtout chez les évangéliques, mais ça me navre. Parce que je me dis, la conversion, elle devrait nous rendre un peu plus polis, même si on n'est pas joli. Mais vraiment, une conversion, elle affine. Il y a des choses qui ne se font plus. Ou quand on va chez quelqu'un, si c'est possible, on le téléphone pour lui demander si on ne dérange pas, etc. Et puis, on ne s'impose pas, on ne s'incruste pas. On sait quand on doit partir, on sait que ces gens doivent travailler. Et ce n'est pas parce qu'on est très amis qu'on abuse. L'affection fraternelle, elle nous donne des limites. Et même si vous allez voir le malade, vous n'irez pas lui dire n'importe quoi. S'il est dit comme du vinaigre sur le mitre, tel est celui qui chante des chansons à un cœur affligé. Et vous savez, on peut être pasteur et faire de grandes gaffes quand on va faire une visite au malade. Alors, cher ami, vous souffrez beaucoup. Et l'ami vous dit, ça se voit, on vient de faire une terrible opération. Eh bien, souvenez-vous que celui que le Seigneur aime, il le discipline. Alors, ça fait l'effet contraire, ce verset biblique. Et puis, la personne qui vous dit, je voudrais qu'il vous aime un peu plus et qu'il m'aime un peu moins, vous ne l'aurez pas volé. Vous ne l'aurez pas volé. Ça, c'est une réaction qui peut venir, même d'une chrétienne. Je voudrais qu'il vous aime un peu plus et qu'il m'aime un peu moins, pour que je souffre moins. J'ai connu un pasteur qui a dit ça à une malade, qui était là, dans son lit de souffrance, et qui était dans un état terrible, et on vient lui chanter une chanson avec un verset biblique. Ou bien j'avais à côté de moi, de mon lit d'hôpital, un homme qui avait les deux jambes coupées, et malheureusement, le prédicateur, qui était un cher frère pour ça, alors cet homme s'était converti, parce que j'avais pu lui parler, il était complètement révolté autrefois, mais voilà que... Il progressait spirituellement, c'était quelque chose de merveilleux. On était 16 dans cette chambre, mais je lui parlais le matin, bien avant l'aurore, et puis il s'est calmé, il a trouvé le Seigneur. Mais voilà ce frère qui vient pour me faire une visite, puis je crois bon de lui dire deux mots pour qu'il dise un mois. Vous savez ce qu'il lui dit? Le pauvre homme qui était venu avec ses deux jambes, et on lui avait coupé les deux jambes, il y avait deux petits moignons seulement. Alors mon brave pasteur, prédicateur, lui dit, alors, cher ami, comment allez-vous? Bien, vous savez, quand on est venu avec les deux jambes à l'hôpital, puis qu'on part sans jambes, c'est pas drôle. C'est vrai ce qu'il disait, hein. Mettez-vous dans sa peau. C'est pas parce qu'il était révolté, il avait accepté, mais quand même, quand on lui demande si ça va, bien, il dit, il est tout jeune dans la foi, il dit que c'est quand même pas drôle de repartir sans jambes. Cul-de-jatte, ben oui. Alors, vous savez ce qu'il lui dit? Eh bien, cher ami, réjouissez-vous, vous aurez bientôt les jambes du ciel. Voilà des trucs qu'ils ne vont jamais dire. C'est un manque de discernement. C'est des amis de Job. Vous aurez bientôt les jambes du ciel. Mais je vous dis ça parce que c'est des choses que j'ai vécues quand j'étais très jeune, quand j'étais malade, quand j'étais à l'hôpital. J'ai vu ces choses. J'ai été éduqué par ces choses. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et si vous allez chez des prisonniers pour leur parler, ça m'est arrivé aussi dans ma jeunesse, surtout d'aller même parler à des gens qui avaient tué et tout. Et mais c'est de se dire, mais je ne suis pas meilleur qu'eux. Et c'est de nous mettre plus bas qu'eux et de leur dire, vous savez, je ne viens pas pour vous juger parce que si j'avais pas eu les parents que j'ai eus, j'aurais fait des sens ou pas dans mon cœur, j'ai découvert que j'avais tout en germe. Parce que quand on n'aime pas, on est sur le chemin du crime. Et quand on convoite, on est sur le chemin du vol. Quand on a des mauvaises pensées, on est sur le chemin de l'adultère. Et de la fornication et de tout ce que vous voulez. Et est-ce que moi je n'ai pas eu des mauvaises pensées? Est-ce que je n'en ai pas? Est-ce que je ne dois pas m'en juger? Est-ce que je ne dois pas dire au Seigneur que c'est vrai? Voilà ma nature. Mais tu es mort avec ça. Puis maintenant, ma vraie vie, tu veux que je la regarde là, en toi, Seigneur. Alors c'est tonique et cela nous relève. Alors vous verrez, dans les visites pour maintenir la communion fraternelle, il vous donnera aussi ce qui est nécessaire. Et vous souviendrez aussi que dans les visites, si vous voulez vraiment maintenir la communion fraternelle, pour être très pratique, eh bien mes amis, comme on l'a cité déjà, Proverbe 25-17, même si vous aimez beaucoup quelqu'un, souvenez-vous toujours de Proverbe 25, verset 17. Il ne faut pas que vos fréquentations soient trop nombreuses. Ne mets pas trop souvent les pieds chez ton voisin de peur qu'il ne te haïsse. Là, il y a un équilibre. Et ça, c'est l'enseignement de la grâce. On est très amis, alors on est tout le temps les uns chez les autres. Et pour finir, il y a une espèce de lassitude. Voyez-vous, le christianisme, il nous apporte l'équilibre. Être équilibré en toute chose, pas d'exagération, ni d'un côté, ni d'un autre. Vous allez dire, oh, mais ça alors, notre vie, elle ne sera pas très gaie. Non, mais elle est équilibrée. Elle est équilibrée. Et puis, vos relations dureront. Vous ferez plutôt désirer. Mais vous ne serez pas des gens qui s'imposent. Puis je voudrais encore vous dire, ne soyez pas des questionneux. C'est pas un mot qu'on emploie en France, mais je sais qu'ici on l'emploie. Vous savez ce que c'est des questionneux? Toujours poser des questions. Des questions indiscrètes. Laissez la vie privée aux gens. L'amour fraternel, il ne s'ingère pas dans la vie privée. Ou si vous allez faire une visite chez quelqu'un, puis que vous voyez un objet ou un autre, ne commencez pas de lui dire qu'il ne devrait pas avoir cet objet ou ceci ou cela.